les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les Héroïnes. Bonjour Marine Combes.
Bonjour.
Marine, vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe Rennais YEG, que l'on peut lire sur yegmag.fr. Bonjour Gwen Pacotte.
Bonjour Morgane.
Gwen, vous êtes productrice et cofondatrice de l'agence Void dédiée aux arts vivants, autrice, compositrice, interprète au sein du groupe Antifolk Rockin, co-fondatrice, co-éditrice des éditions RAG. Bonjour Régine Comocoli.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée aujourd'hui avec vous tout à l'heure. On parlera de la situation dans votre quartier Villejean et du combat des mères habitantes. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pour l'heure, c'est la revue d'actu, les coups de cœur, les coups de gueule, les rappels utiles, et c'est avec vous Marine qu'on commence. Vous allez nous parler de la série H24 diffusé sur Arte, 24 micro-épisodes de 3 minutes pour raconter 24 histoires vraies.
Il nous faut cette urgence quand c'est une femme qui crie de prendre sa défense, qu'elle soit transgenre ou cis. J'étais même pas au drive, je travaillais au froid, j'entends sur le parking pousser des cris d'effroi. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant, une gosse sur la banquette, du sang sur les dents, une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on dit. Elle a amoché la caisse du gars. Enfin, on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme. Je m'en tape du pourquoi. Je n'ai plus aujourd'hui l'excuse de la stupeur. On va faire comme on a dit, comme on s'est promis, la fois où on a eu peur. Il nous faut ce réflexe quand c'est une femme qui crie de sauver notre espèce, qu'elle soit transgenre ou cis. Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie? Il intervient, éclate la gueule, empêche un autre féminicide? C'est une femme, il ferme les yeux comme tout le monde ici. Mais tu me diras, il réagit le bonhomme quand tu lui confies que le pote de son pote t'a violé. Il aura cet instinct de solidarité, de venir consoler l'homme qui t'a tourmenté. Voilà ce qu'il fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en nombre de couilles avec la définition du bonhomme. Il nous faut cet instinct quand c'est une femme qui crie de lui venir en soutien, qu'elle soit transgenre ou cis. J'en ai, moi, assez de valeur de répondre à ce cri, de lutter pour une sœur, qu'elle soit transgenre ou cisgenre, ou d'un autre genre que t'assassine. Ça, c'est un extrait du Cri défendu, un texte signé par l'autrice camerounaise Jo Goustine, interprété par la talentueuse Déborah Lukumwena et réalisé par Charlotte Abramov. Tout ça dans le cadre de la série européenne H24 qui est diffusée sur Arte en 2021 et joie, c'est encore en ligne et accessible gratuitement. L'idée de Valérie Ourrea, et Nathalie Masduro, c'est de filmer le réel, mais pas n'importe lequel, celui des femmes. H24, c'est 24 courts-métrages de 3 minutes environ, écrits par 24 autrices et joués par 24 actrices de pays différents d'Europe. Et c'est parfois réalisé par d'autres artistes que Valérie Ourrea et Nathalie Masduro, à l'instar de Aloïse Sauvage ou de Charlotte Abramov, donc. Et la musique, elle est toujours composée par Léonie Pernet, comme un fil rouge dans ce tableau quasi noir qui marque, heure par heure, le quotidien des femmes. Il y a cette femme qui marche dans la rue, suivie de près par un homme au regard lubrique au volant de sa voiture. Il y a cette femme moquée et insultée sur le terrain de foot devant toutes les ados qu'elle entraîne. Il y a cette femme terrifiée par l'homme qui lui touche la cuisse dans le bus. Et puis il y a cette femme à qui on impose de porter des talons hauts pour travailler. Il y a cette femme victime de violences conjugales, expulsée de son logement pour tapage nocturne. Et puis il y a cette femme, parce qu'elle est une femme noire, elle est plaquée au sol par les forces de l'ordre et elle perd sa dignité en même temps que sa jupe. Faire l'expérience de la condition féminine, c'est composer avec les violences latentes et quotidiennes, allant de la plus banale remarque sexiste au féminicide, en passant par le contrôle du corps des femmes, les inégalités salariales et l'absence de rôle modèle, mais aussi la charge mentale et la charge émotionnelle. Les violences, elles sont logées dans l'inconscient et dans les silences, mais aussi dans les normes et les injonctions. La volonté des réalisatrices à travers le série, à travers cette série, elles le disent, se réapproprier nos histoires afin qu'elles ne nous échappent plus. Alors elles distillent des talents et de la créativité qu'elles mettent au service non seulement de la condition des femmes à chaque heure de la journée, mais aussi de la puissance de celle-ci. Chaque épisode, vous l'avez dit Morgane, s'inspire de faits réels et relate un élément du quotidien des personnes sexisées, harcèlement de rue, lesbophobie, sexisme, violence conjugale, agression sexuelle, insultes, viols, féminicides, contrôle de l'apparence et par conséquent du corps, intersectionnalité du sexisme et du racisme. C'est la réalité banale et brutale du vécu des femmes qui transparaît dans ces courts-métrages qui sont impactants et révélateurs. Ça perturbe, bouleverse, oppresse même, ça prend aux tripes et ça sert les viscères. Mais c'est aussi hyper puissant d'enchaîner les épisodes et d'éprouver cette condition de cette manière-là. Ça fait l'effet d'un détonateur, d'une bombe, c'est un révélateur en fait de toutes les violences qu'on se bouffe dans la gueule en tant que femme. Toutes les violences mises bout à bout précipitent la prise de conscience. L'ampleur des VSS, il n'y a plus à la démontrer, on la connaît, on en a conscience. Mais ce qui m'a frappée viscéralement, c'est à quel point les femmes, on est fortes de rester debout. Et même plus que ça, on est debout, on avance, on survit, mais aussi on agit. Et H24 a cette force incroyable, c'est qu'en une durée assez courte, l'épisode montre la violence qui est exercée par les hommes sur les femmes, la brutalité de la situation et les émotions que ça génère, tristesse, peur, colère, mais aussi la réaction des femmes, elles répondent de manière différente, dans des temps différents et des psychologies différentes, mais elles répondent. Si les femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles au quotidien, entremêlées à du racisme, des LGBTI-phobies, du validisme, du classisme, etc., elles réagissent, résistent, crient, hurlent, dénoncent, prennent la parole, le micro, la caméra et elles changent les règles du jeu. Elles choisissent leurs conditions et écrivent leurs propres histoires. Et puis c'est vibrant et stimulant, on peut s'identifier à un, plusieurs, tous les courts-métrages. On peut essayer de comprendre des situations qu'on n'a jamais vécues. On peut se mettre à la place des personnages, ressentir leur effroi, entendre ce cri dont parle Déborah Lukumuena, qu'il soit un cri de douleur, de peur, de tristesse ou de colère, un cri du cœur, un cri de nos sœurs, à saisir de toute urgence pour les soutenir et surtout pas pour les faire taire. Un cri de ralliement en faveur de la sororité, de l'adelphité et de la solidarité.
Merci Marine. Alors on ne s'est pas concerté. Mais quand vous m'avez dit que vous alliez parler d'H24, je me suis souvenue de cet épisode. J'ai hésité entre deux en fait, voilà, pour un petit diffuser un des épisodes. J'ai hésité entre le cri défendu et aussi celui où la femme est expulsée parce qu'il y a trop de bruit chez elle à cause des violences conjugales qu'elle subit. Et celui-ci m'a particulièrement marqué parce que je ne savais pas que ça pouvait arriver, malheureusement, sur les 23 autres heures. Je sais tout ce qui arrive, mais j'ai décidé de passer le cri défendu parce que effectivement Déborah Lukumuena, elle est juste exceptionnelle.
Elle est tombée par terre.
Le texte est fort et son jeu d'actrice est incroyable.
Quand ton nourrisson pleure, à ce qui paraît, même quand t'es au travail, tu le sais, t'as une montée de lait, t'as les seins qui tirent et qui vont exploser. Tu as une envie pressante d'aller soulager. C'est un peu ton supplice que tu soulages aussi. Il nous faut cette urgence, quand c'est une femme qui crie, de prendre sa défense, qu'elle soit transgenre ou cis. J'étais même pas au drive, je travaillais au froid. J'entends sur le parking pousser des cris d'effroi. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant, une gosse sur la banquette. Du sang sur les dents, une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on me dit. Elle a amoché la caisse du gars, enfin on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme, je m'en tape du pourquoi. Je n'ai plus aujourd'hui l'excuse de la stupeur. On va faire comme on a dit, comme on s'était promis. La fois, on a eu peur. Il nous faut ce réflexe, quand c'est une femme qui crie, de sauver notre espèce, qu'elle soit transgenre ou cis.
C'est ma femme, c'est ce que je veux là, je joue pas au bonhomme.
C'est ma femme, je fais ce que je veux, je joue pas au bonhomme, qui me dit. Pourquoi? Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie? Il intervient? T'éclates la gueule? Empêche un autre féminicide? C'est une femme? Il ferme les yeux, comme tout le monde ici. Et tu me diras, il réagit le bonhomme, hein, quand tu lui confies que le pote du pote de son pote t'a violé. Il aura cet instinct de solidarité, de venir consoler l'homme qui t'a tourmenté. Voilà ce qu'il fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en nombre de couilles avec sa définition de bonhomme. Il nous faut cet instinct, quand c'est une femme qui crie, de lui venir en soutien, qu'elle soit transgenre ou cis. Non Bertrand, je joue pas au bonhomme. Je joue à la mignonne qui va te faire bouffer ton acte de naissance.
Non, tu fais pas ce que tu veux, t'arrêtes de la toucher.
La touche si tu veux, mais c'est ma femme, c'est ce que je veux, putain.
Eh ben moi si je te touche. Celle qui a dû préparer son mental pour la circonstance, à coup d'atelier d'autodéfense.
Retourne dans ton fast-food, d'accord, et va me faire à bouffer, d'accord. Ta gueule, ferme ta gueule.
Celle qui s'est répétée assez pour ne plus trembler, qu'à la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage.
Et
regarde, je te retouche encore là. J'ai en moi cette valeur de répondre à ce cri, de lutter pour une sœur, qu'elle soit transgenre ou si genre, ou d'un autre genre, du genre que t'assassines.
Oh putain, oh. Mais dis quelque chose toi putain.
Ma chérie, tu le veux comment ton mari? Bien saignant ou à point par centaines dans la gueule? Un peu de maillot pour te redonner la frite? Ah, y a du ketchup bio, hein, il en produit tout seul. Ce sera tout? Vraiment? Tu veux même pas de boisson? Voici un filet fiche le camp, cadeau de la prison.
Donc ça, c'était l'épisode 6 de la série H24 qu'on retrouve effectivement, Marine, vous nous le disiez, sur Arte TV. Et je crois que c'est disponible jusqu'à octobre 2026. Donc voilà, faut aller regarder. Ce qui est pratique avec Arte TV, c'est qu'on peut passer, si l'épisode est vraiment pénible, à regarder. Et merci.
Mais ils sont pas du tout pénibles.
Ouais, c'est... Non, c'est pas pénible, mais c'est fort.
Dur à regarder.
Ouais. Et donc la musique, vous l'avez dit aussi, c'est Léonie Pernet, celle qu'on entendait dans cet épisode. Gwen, je me retourne vers vous. Vous nous parlez musique. Mais musique en colère, musique de colère, je ne sais pas comment dire, pour dénoncer notamment ce qui se passe de très grave outre-Manche.
Oui, alors c'est aussi la musique pour accompagner ma colère aujourd'hui, puisque j'avais envie de pousser un cri aussi. Tous les jours, on a une info qui vient rappeler aux femmes, aux personnes porteuses de handicap, aux personnes non-binaires, gays, queer, aux personnes migrantes, aux enfants, oui, eux aussi sont désormais visés, que notre société les tolère et que c'est déjà pas si mal, mais que ça pourrait être pire. Alors la pervasion, la diffusion assumée de tous les composants nauséabonds des idées réactionnaires, racistes et fascistes me fout carrément la trouille. Et puis la colère reprend le dessus, comme une envie d'hurler. Et pour accompagner cette colère, la musique, heureusement, est mon allié. Alors plutôt que d'en faire aujourd'hui une chronique un peu down, j'ai choisi l'énergie de la vocifération musicale, celle d'un groupe de filles de la nouvelle scène londonienne, les Lambrini Girls. Ces filles sont très en colère, elles sont militantes, progressistes, féministes, d'aucuns même aiment à les qualifier les furies de Brighton, alors on suppose que c'est peut-être des hommes, et elles sont les héritières de Courtney Love ou des Riot Girls. Avec des textes crus, du clash post-punk noise, Phoebe Loney hurle sa haine des réactionnaires en tout genre, accompagnée par des gros riffs de basse de sa duettiste Lily Machera, dans un premier album indie punk rock, Who Lets the Dogs Out, sorti en janvier dernier. Elles sont militantes pro-trans, détestent les TERF, donc je rappelle ici les féministes radicales qui excluent les personnes trans, et s'emparent de leurs deux corps réunis des luttes en faveur des personnes que les puissants voudrait invisibiliser, pardon, voire éradiquer, mais aussi de sujets comme les relations toxiques, la politique d'extrême droite, et j'en passe. D'extrême, elles ont l'énergie, la scène est leur tribune. Et extrait de cet album, mon hymne du moment, s'appelle Cuntology 101. C'est un pamphlet punk pour revendiquer la force de nos vagins, pour la liberté d'être soi, en vrac, sale et fier. Une diatribe contre la bien-pensance qui voudrait nous faire enfiler le costume de la perfection. 101, c'est le numéro d'urgence au Royaume-Uni. Car oui, il y a urgence à revendiquer très fort qu'on doit s'habituer à dire non, qu'on veut exister tel qu'on est. Urgence à écouter notre instinct et à lui hurler fort au visage de tous les haineux et bien-pensants. Les Lambrini Girls accompagneront donc mes colères avec des titres percutants de moins de 3 minutes, comme cette chronique, Morgane. Et peut-être qu'on peut en écouter un extrait.
Mais on va faire mieux, Gwen. Moi, j'ai très envie d'écouter le morceau en entier. Donc, les Lambrini Girls, Cuntology 101. Non, c'est pas zéro, c'est 101.
Can you say no is cunty getting out of your comfort zone? Learning how to let go is cunty. Having come on my shirt is cunty. Setting boundaries is cunty. Respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty. Learning to love yourself is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty.
I'm cunty. One, two, three, four. I deserve so much more, I'm cunty. Five, six, seven, eight. You can't take that away, I'm cunty. It's Cuntology, what a wild bitch!
Alors ça, c'était donc votre choix, Gwen, et merci de l'avoir partagé parce que c'est vraiment très bon. C'est les Lambrini Girls, elles viennent d'Angleterre, et c'était Cuntology
1-1,
voilà. Et c'est notamment en réaction sans doute avec tout ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement anglais qui a sans doute un peu pété un câble avec les dernières annonces. Mais vous allez voir que c'est pas terminé en France, on est pas mal aussi. 15 occurrences de ponctuation inclusive. Alors vous savez, l'écriture inclusive, hein, c'est celle qui permet de considérer et d'inclure plus de la moitié de la population mondiale, les filles et les femmes notamment. 15 occurrences inclusives sur un site internet pourraient coûter 75 000 euros de subvention. Ainsi, on a décidé, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
étonnant,
et son président, les Républicains, Bruno Muselier, mais attention, c'est sur proposition du Rassemblement National, supprimer 75 000 euros de subvention à l'école Courtrage-Mé si elle continue d'utiliser sur son site l'écriture inclusive. Alors cette école, elle forme au métier de l'audiovisuel et du cinéma, et elle est reconnue pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. L'argument du Rassemblement National pour demander le retrait de la subvention, accrochez-vous bien là où vous êtes, à vos sièges, au canapé, je ne sais pas, volant de voiture, le parti d'extrême droite reproche à l'école d'avoir une optique communautaire à vouloir représenter les minorités, voilà, avec l'écriture inclusive. Et les élus LR estiment quant à eux que l'écriture inclusive nuit à la lisibilité de la langue française et à son universalité, bien sûr. Alors, quand par ailleurs la commission d'enquête sur les violences dans le cinéma s'est récemment tenue à l'Assemblée nationale et dénonçait le manque de diversité qui entraîne et fait persister les violences sexistes et racistes dans le 7e art, eh bien, voilà, on s'en doutait fortement. Ce n'est pas avec le Rassemblement National ni les Républicains qu'on peut espérer voir les choses évoluer dans le bon sens. En revanche, avec la Cour européenne des droits de l'homme, là, oui, on peut peut-être avoir plus de chances de voir nos sociétés aller dans le bon sens. Ainsi, et c'est historique, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France le 24 avril dernier pour défaillance dans le traitement judiciaire de violences sexuelles à l'égard de mineurs. Condamnation pour victimisation secondaire. La Cour européenne des droits de l'homme reproche à la France le traitement sexiste des plaignantes, qui étaient donc mineures au moment des faits et des instructions des procès. C'est-à-dire que la maltraitance subie pendant la procédure judiciaire est reconnue. La Cour européenne des droits de l'homme, elle reconnaît une violence à l'encontre de ces jeunes femmes dans la conduite des investigations et des procès sans qu'il y ait aucune utilité pour la manifestation de la vérité. En fait, c'est toute la chaîne pénale qui est visée par cette condamnation, notamment dans l'affaire dite Julie, cette mineure qui avait déposé plainte pour viol contre des pompiers entre 2008 et 2010. La France est condamnée pour des manquements graves à ses obligations en matière de protection contre les violences sexuelles sur les fondements des articles 3 et 8. Alors, au-delà du, je cite, caractère inapproprié des propos des policiers culpabilisateurs et de nature à disqualifier la parole des requérantes pendant l'enquête, à l'égard donc de toute jeune plaignante, des propos qui ne s'accordent pas avec la conception contemporaine des éléments constitutifs du viol, dont la caractérisation n'est plus subordonnée à l'établissement d'une résistance physique de la victime. C'est aussi la vision sexiste des magistrats français que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné fermement. Elle révèle aussi, cette Cour européenne des droits de l'homme, je cite encore, les stéréotypes de genre dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, décrivant de manière caricaturale et péjorative les faits énoncés par les requérantes. Alors d'ailleurs, la victimisation secondaire. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, puisqu'elle, en fait, elle a été utilisée par la défense de Gérard Depardieu lors de son procès pour agression sexuelle. Eh ben, elle a été reconnue, cette victimisation secondaire, mardi. Alors, l'acteur, lui, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, mais le tribunal ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a convenu qu'il il y avait eu victimisation secondaire des clients de la part de l'avocat de Depardieu, Jérémy Assous. Et ça, c'est aussi historique. Alors, bien sûr, il fait appel, mais en tout cas, le tribunal l'a noté. Voilà, on n'a pas le droit de s'en prendre comme ça aux plaignantes, les traiter de menteuses, hystériques, comme il a pu le faire, entre autres. Mesdames, connaissez-vous Joséphine Pencalet?
Oui.
Ouais, Marine, elle connaît. Eh bien, il y a pile 100 ans, le 3 mai 1925, Joséphine Pencalet est devenue la première femme élue en France. Alors oui, je sais, c'est pas possible parce qu'à l'époque, c'était interdit. Ça s'est passé à Douarnenez, dans le Finistère. Joséphine Pencalet, elle est ouvrière sardinière, tout juste sortie d'une grève longue et victorieuse, menée par les Pen Sardines, dont on vous a déjà parlé ici plusieurs fois. Et elle est élue conseillère municipale. Alors bien sûr, tout de suite, à l'époque, on le sait, comme les femmes ne sont ni électrices ni éligibles, eh bien, son élection va être invalidée, puisque ce droit, elles vont l'obtenir 20 ans plus tard, en 45, il y a 80 ans. Et pour autant, son geste, il est historique, et bien sûr, il a été oublié, comme souvent quand ça concerne les femmes. Et heureusement, aujourd'hui, son parcours, vous pouvez le découvrir parce qu'il a été mis en lumière grâce au travail de Fanny Bugnon, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine et études de genre à Rennes 2, dans son livre « L'élection interdite ». C'est paru aux éditions du Seuil. Et attention, la préface, elle est quand même importante. Enfin, c'est important, je pense, de le signaler. C'est une préface de Michel Perrault. Donc, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ça se dit encore, ça? En tout cas, voilà, il faut absolument aller découvrir le parcours de cette Joséphine Pencalet. Allez, je vous propose de faire une première pause, en fait, deuxième pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On va écouter, c'est beaucoup plus soft, calme que nos Lambrini Girls. Le titre s'appelle Salon des arts ménagers de Concordski.
Ajuste son costume.
C'était Salon des Arts Ménagers par Konkordski sur Canal B dans les Héroïnes. Rebonjour Régine Comocoli.
Rebonjour.
Je vais vous présenter et puis raconter, remettre un peu les choses dans le contexte. Régine, vous êtes conseillère départementale depuis juillet 2021, déléguée à la PMI, petite enfance, parentalité, élue non encartée du canton Rennes 6. Vous êtes la première femme à avoir été sans papier aujourd'hui élue de la République française. Et ça, c'est pas rien. Pourtant, votre parcours, il est semé d'embûches, d'obstacles et d'épreuves très dures même. Je sais peu de le dire. À votre arrivée, vous allez être exploitée, mais vous allez refuser cette condition et passer votre diplôme d'aide-soignante en région parisienne. Mais quand vous arrivez à Rennes, vous allez subir des violences conjugales et connaître les hébergements d'urgence, dormir dans votre voiture avec vos trois filles, 1013 nuits au total, plus de 2 ans. Et vous décidez, une fois encore, de vous sortir de là, de parler, de vous engager en politique, de briser le tabou des violences faites aux femmes, notamment dans la communauté des femmes noires. Depuis, votre engagement n'a cessé de croître et vous êtes aujourd'hui une figure du féminisme rennais, voire national. Vous allez alors cofonder le collectif Kouné Faire Ensemble à Villejean, un collectif de femmes de quartier qui veille à ce que la vie à Villejean soit plus douce et sereine et qui propose aussi les clandestines de Kouné, un réseau d'autodéfense féministe qui écoute et épaule les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, votre voix, vous la faites aussi résonner pour que cessent les violences que subit le quartier Villejean depuis des mois à cause du narcotrafic. Il y a eu 7 épisodes de tir depuis décembre. Alors, les deux plus graves se sont déroulés d'abord le jeudi 17 avril d'Al-Kennedy à Villejean, où une fusillade a éclaté. Puis, le samedi 3 mai, 19h30, autre fusillade, toujours à Villejean. Là, ce sont 3 ados qui sont touchés et blessés gravement à l'arme de guerre. Le vendredi 9 mai, 3 hommes sont arrêtés dans le quartier. Ils étaient en possession de stupéfiants et d'un pistolet automatique. Vous, Régine, le 20 avril, vous organisez une chaîne humaine sur la dalle Kennedy. Il y a 200 personnes qui vont répondre présentes, qui vont répondre à votre appel. Le 22 avril, c'est la ministre de la ville, Juliette Méadel, qui vient vous rencontrer et qui dira... Vous êtes des résistantes. Vous êtes là, toujours debout, mais vous attendez des actes et vous êtes déterminées à poursuivre ce combat pour les enfants de Villejean. Et vous posez cette question, où sont les pères? Où est la République? Vous interpellez la ministre en lui disant, je vous cite encore, « La parentalité ne peut pas être une charge solitaire, elle doit être une responsabilité partagée et reconnue par la République. » Et vous lancez un manifeste pour exiger la reconnaissance de la parentalité comme engagement citoyen, le soutien effectif aux familles isolées et l'égalité réelle pour nos enfants. Parce que, vous le dites, je vous cite encore, « Élever un enfant, c'est élever toute une société. Un enfant n'appartient ni à une mère, ni à un père, il appartient à l'avenir. » La première question que j'ai envie de vous poser, Régine, c'est « Comment allez-vous? Comment tenez-vous le coup ?»
Alors, comment je vais comment on va? Je dirais, c'est tout un quartier, c'est toute même une société, finalement, on peut dire ça, puisqu'on voit bien que ce qui nous arrive à Villejean, ça touche largement. Épuisé, mais on reste debout. On reste debout parce qu'on n'a pas le choix, parce que vous l'aviez rappelé, c'est pour nos enfants qui vivent dans sur ces territoires-là. Et c'est chez nous, c'est notre village. Et donc on fait avec, vraiment.
Elle est comment aujourd'hui l'ambiance à Villejean? On sait qu'il y a eu donc cette interpellation de 3 hommes le 9 mai, c'était il y a quelques jours. L'inquiétude, c'est tendu.
C'est toujours tendu, c'est toujours de l'angoisse, la peur, puisque finalement c'est un peu, et ça même encore plus, pire, puisque quand c'est arrivé au mois de février, c'était un peu ça. On a eu 2 mois à peu près de pause et les choses ont recommencé. Donc, plus que jamais aujourd'hui, on est en mode ça va arriver quand, à quel moment. Donc, c'est vraiment une manière de vivre qui est quand même bien particulière, parce que vraiment, on est en mode surveillance, autosurveillance, je dirais, très inquiète. Pour les uns et les unes aussi, pour les enfants, quand les enfants se déplacent sur la dalle, quand on sort sur la dalle, donc on regarde devant nous, derrière nous, sur le côté. Donc c'est pas vivable ce qu'on vit à Vigan aujourd'hui. Et je le dis vraiment là parce que les gens se rendent pas compte de l'ambiance de ce qu'on vit vraiment à Vigan. C'est vrai que là, l'ambiance médiatique s'est un peu calmée, donc je pense que les gens passent à autre chose. Mais la réalité, c'est que les habitants n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'on attend à quand la prochaine tire.
Mais on les comprend, les habitants, les habitantes, de se dire, voilà, le matin, on sort pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, et on a peur tout le temps. Le soir, on rentre et puis de se dire aussi, il fait beau, est-ce qu'on laisse les enfants aller jouer dehors ou on les calfeutre dans chez soi. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des autorités, quelles qu'elles soient, depuis le 22 avril et la visite de la ministre de la Ville ?
Pas du tout. Pas du tout. Le mot, et c'est vraiment collectif, mais vraiment, parce que je suis obligée de me justifier maintenant. Voilà, je mets de côté mon côté militant, c'est l'habitant qui parle. Le mot qui nous revient, c'est le mépris. Le mépris total, on n'a pas eu de réponse, on a un sentiment d'être utilisé, instrumentalisé, c'est-à-dire que voilà, les autorités sont passées, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, des annonces et tout, et ils sont partis, donc pas de nouvelles. Et je pense qu'il n'y a rien de pire de ne pas avoir des nouvelles, parce que ça aussi, ça faisait partie des questions qu'on a posées à la ministre, c'est de faire avec nous, parce que ça aussi, ben, on en a marre, on parle de la colère, ben, nous aussi on en a marre que tout soit décidé pour nous, on aimerait que ça se fasse avec nous, qu'on décide ensemble. Et là, pas du tout, même pas un message de soutien, rien du tout. On a l'impression qu'il y a un mode silence radio, personne n'en parle et puis tout va bien se passer. En gros, c'est ça.
Donc c'était peut-être une opération de com' que de venir sur la dalle Kennedy, de vous dire vous êtes des résistantes et puis un mois après, il n'y a plus de
nouvelles. Ouais, je pense qu'on ne traite pas les résistantes comme on nous traite en ce moment, je ne crois pas. Donc je pense qu'il ne faut pas utiliser les mots, voilà, le français je le découvre, hein, je l'apprends depuis 20 ans et je pense qu'il faut respecter les résistantes, il y en a eu et se sont battues. Et donc quand on prononce des mots comme ça, il faut qu'il y ait des actes qui vont avec et pour l'instant on n'a pas les actes qui vont avec, donc c'est pas flatteur du coup, au contraire, on trouve que c'est un manque de respect.
On partage ce sentiment de manque de respect. Alors, la monoparentalité qui a explosé en France ces dernières années, bah, les pouvoirs publics semblent l'avoir découverte en fait à l'été 2023, après l'assassinat de Naël et les émeutes qui ont suivi. Aujourd'hui, plus d'une famille sur 4 est monoparentale, soit 2 360 000 familles, près de 30% des familles en France. Plus de 8 fois sur 10, bah, le parent isolé, c'est une femme, une mère, et plus de 9 fois sur 10, elle réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au sein de ces familles, on compte 3 125 000, c'est ça, enfants de moins de 18 ans, soit 22% des enfants mineurs en France. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces familles, elles sont en plus donc de plus que les autres confrontés aux fragilités sociales et à la pauvreté. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce sont essentiellement des mères dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu'on vient les voir une fois et puis qu'après on les oublie et que rien ne soit fait alors qu'il y a urgence ?
Oui, je pense que les chiffres parlent. Hein. C'est vrai que plus de 25% dans le quartier de Vigan, rien qu'à Vigan. Donc oui, non seulement elles sont des mères, mais ce sont des femmes. Parce que la question que j'aimerais poser, si c'était des hommes, si on avait autant de chiffres comme ça avec les hommes, est-ce qu'il y aura aussi la même réponse qu'on attend depuis très longtemps? Et c'est pas normal de laisser seules les mères porter toute cette responsabilité. Et puis après, quand ça va pas, on vient leur taper dessus. Et puis bah, quand ça va, on n'en parle même pas. Parce qu'on oublie aussi que bah, ce sont ces mères-là qui portent. Et il y a aussi des mères qui se battent pour que les enfants réussissent. Donc c'est tout ce deux poids de mesure qui commence vraiment à nous chauffer. Voilà.
Ouais, c'est ce que je disais quand je dis que les autorités semblent avoir découvert le phénomène à l'été 2023, puisqu'il y a, cet adolescent qui est assassiné et on découvre que sa mère l'élève seule. Ah bah tiens, ça existe, la monoparentalité. Et vous, Régine, quand vous dites où sont les pères, C'est rare en fait d'entendre ça et c'est assez puissant. Enfin, est-ce que c'est limite prendre un risque de poser cette question ? Où sont les pères ?
Oui, je pense que dans ma situation, c'est un grand risque. Et d'ailleurs, je vais être au clair avec ça parce que je sais aussi que les politiques peuvent aussi traverser aussi ce que j'ai dit. Parce qu'on sait très bien que bon, là, où sont les pères. Et après, moi, je vais être honnête avec vous. Hein, je suis une femme noire d'Afrique, je suis maman solo aussi. Et on sait qu'après, c'est les étrangers, après, c'est les immigrés. Donc, loin de là. Moi, quand je pose cette question, c'est aussi comment la société, en fait, valorise les pères qui travaillent. Parce que c'est aussi ça, la réalité. Et donc, du coup, bah forcément, les papas sont absents souvent. Et surtout sur ces territoires-là aussi, il faut être honnête, ce sont souvent des primo-arrivants avec des conditions de renouvellement de papier. Il y a plusieurs raisons qui font qu'au quotidien, on valorise plutôt les pères qui travaillent et les mères sont à domicile. Donc là, c'est là où je viens poser cette question aussi qui est très importante. Mais en plus de cela, je pose aussi la question de la République. Où est la République ? Parce que le vrai sujet, c'est pas aussi ça. Madame la ministre était venue pour un sujet de sécurité, parce que c'est un droit pour toutes et tous. Hein. Et une sécurité qui est liée aussi à des conditions sociales qui datent. En fait, on a l'air de découvrir aussi la misère sociale dans les quartiers populaires, alors que ça date aussi. Et là, elle inverse le rôle, elle pose une autre question, et du coup, on parle plus de la réalité, on parle maintenant de la question des parentalités. Donc, oui, je pose la question où est la République, parce que pour moi, là, c'est une question qui est beaucoup plus large, et vous l'avez rappelé aussi ici, mais c'est une question qui touche tous les Français, et les Français, pas que dans les quartiers populaires, même si nous, on le paye un peu plus, vu que c'est lié aux conditions sociales, la pauvreté, c'est aussi aux conditions du travail, tout simplement, les jeunes, les mamans qui travaillent à mi-temps, enfin, il y a plein, la question de la garde d'enfants, qui est un vrai sujet aussi de société, l'éducation, la vie associative, enfin, tout, chez nous, on vit tout, hein. C'est un territoire d'expérimentation sur les conditions sociales. Donc, moi, je trouvais un peu dommage. En tout cas, je suis même plus en colère parce que je trouve que ça ne mérite même pas de donner ma colère. C'est de passer à côté, d'inverser les rôles comme ça et changer le sujet pour brouiller les pistes. Ouais.
Ouais, c'est aussi comme ça, on ne fait pas ce qu'on doit faire en tant qu'autorité, de se dire il y a un problème social, il faut le régler. Et là, c'est double peine quand même. Il y a effectivement la monoparentalité, il y a le problème économique que peuvent rencontrer ces familles monoparentales. Et en plus, il y a l'insécurité. Mais les deux doivent être traités. On ne peut pas en traiter qu'un seul.
On ne peut pas en traiter qu'un seul. Et puis surtout, on parle d'insécurité sur l'espace public, mais il y a aussi l'insécurité à l'intérieur de la maison. Là, sur ce sujet, moi je suis maman solo, j'élève mes trois filles et je peux vous expliquer vraiment les conditions de la maman solo. C'est vraiment une souffrance parce qu'on doit doubler les efforts plus que les autres, même en allant plus que ça, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu une journaliste qui m'avait sorti, oui, mais les pères paye les pensions alimentaires. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ce n'est pas une question de l'argent. Donc, on revient encore au capital. Mais ce n'est pas ça. C'est le côté humain qu'on demande. Et quand bien même quand ils payent, ce n'est pas grand-chose à côté de ce qu'il faudrait pour accompagner les mères. Quoi.
Et je le précise. Alors, ils payent la pension que les mères qu'on doit déclarer aux impôts. Et eux, les pères, peuvent aussi déclarer ça aux impôts pour que ça leur soit déduit. Donc ça, c'est déjà une grande injustice. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est aussi rentrer de son travail fatigué et devoir s'occuper des enfants qui ont des devoirs, sont eux-mêmes fatigués, qui ont chagrin, qui ont un besoin, parce que quand ils grandissent, voilà, il faut trouver un stage.
C'est les enfants malades, c'est l'hôpital, c'est l'appel, c'est comment s'investir aussi dans la vie associative, avoir d'autres activités, aller écouter du punk, aller danser aussi, ça on peut pas aller boire un coup aux dernières minutes. Ça c'est la réalité des mamans solo et encore dans les quartiers c'est encore difficile. Donc si ça se rajoute encore cette question de sécurité où on doit s'inquiéter que nos enfants peuvent prendre des balles et qu'on doit pleurer ou aller enterrer nos enfants, merde en fait quoi, il y en a marre quand même. Donc moi je trouve que c'est un sujet pour moi qui est très important, ça mérite vraiment, j'espère que ça va nous ouvrir des portes et c'est ce qu'on espère de vraiment pour que ça soit un vrai débat politique, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et pour moi, qu'on le veuille ou pas, ça rejoint encore tout ce que vous avez dit ici, c'est un sujet très féministe. C'est parce que nous sommes des femmes que nous subissons encore cette situation-là.
Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place à Rennes pour aider, on va rester hein, sur les femmes et les familles monoparentales élevées par des mères. Qu'est-ce qui est fait pour les aider ? On parlait de garde d'enfants. Est-ce qu'il y a des solutions quand on doit aller à un rendez-vous pour faire garder son enfant quand c'est de façon ponctuelle ? Est-ce qu'il y a ça ?
Oui, il y a quelques associations qui sont là. Mais les places sont chères. On sait bien que le problème de garde, c'est très compliqué. Il y a de moins en moins des professionnels aussi. Et puis, il y a aussi l'ordre encore de... Il y a des conditions de travail. C'est-à-dire que si on veut bénéficier vraiment de mots de garde, il y a quand même des conditions. Parce qu'il y a des priorités. On est sur des priorités. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde encore. Et puis, il y a une participation aussi. Donc, il y a certains mamans qui font le choix des fois de laisser les enfants à la maison ou bien c'est la plus grande. Moi, mon cas là, je suis là puisque j'ai mon aîné de 16 ans qui va jouer le rôle à un moment donné pour que j'ai ce temps là. C'est aussi une réalité, il faut le dire, et il faut arrêter de juger ces mamans parce que des fois on n'a pas le choix et des fois c'est tard le soir tout simplement, on n'a pas les moyens à 23h. Si on a un enfant qu'on doit emmener aux urgences, on va rester 4h aux urgences, mais on n'a pas ce moyen de garde là. Donc il y a des moyens, il y a des choses qui se font, mais c'est au cas par cas et c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pas toutes les femmes aussi qui sont au courant des droits aussi qu'elles ont. Et puis il y a aussi des risques et des peurs pour certaines femmes d'être aussi un peu surveillées, stigmatisées. Donc il y a beaucoup de peurs liées à tout ce qu'on peut entendre envers des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Ça reste encore un sujet qui est tabou dans nos sociétés. C'est mal vu. Donc oui.
C'est mal vu. Puis il y a une culpabilité. Vous disiez à l'instant que votre aîné garde votre plus jeune. Et il y a sentiment parfois un peu de culpabilité, peut-être, je ne sais pas si vous le ressentez, mais là, moi je parle de mon expérience, de dire je laisse cette responsabilité au grand frère, en l'occurrence, et en fait, ce n'est pas son rôle, donc je m'en veux, et puis on se dit, ouais, on peut être jugé, enfin
c'est
après...
Ça. C'est ça, on peut être jugé, et puis c'est aussi le message qu'on passe. Moi j'ai 3 filles, donc je fais toujours attention, et par contre je répète, c'est pas parce que maman a fait ça que plus tard, il faudra faire la même chose, parce qu'il y a aussi ça, une question de transmission. On est aussi un exemple pour nos enfants, il ne faut pas oublier. Donc, il ne faut pas que ça devienne normal, en fait. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est le rôle qu'on a aussi en tant que personne, de ne pas transmettre ce qui ne marche pas, parce qu'en réalité, ce n'est pas normal d'être dans l'équipabilité, dans le deux sens. Et puis, il y a des enfants aussi qui voient ça et qui prennent aussi un copier. Et ça, c'est ma crainte.
Les enfants à Villejean, les enfants, les adolescents, quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'on a assez de recul là pour voir si leur santé mentale est atteinte, s'il y a des séquelles déjà, de tout ce qui se passe en ce moment dans le quartier ?
Oui, j'ai eu un témoignage il y a quelques jours, ça m'a glacée. C'est une gamine qui me disait, mais Villejean, tu penses-tu que nous, on peut penser qu'on a droit au psychologue, tu rigoles ou quoi ? De toute façon, on est des enfants de sauvages. Hein. J'ai trouvé ça d'une violence d'entendre une gamine me sortir ça. Et puis, il y avait autre chose aussi, parce qu'au premier, les premières fusillades, il y avait une sorte de, il faut être honnête aussi, ils étaient contents, parce qu'ils voient ça dans les films vidéo et tout ça. Et donc, ça c'était difficile de les sensibiliser en tant que mère en disant on rigole pas de ça, c'est dangereux, c'est grave et tout. Et donc c'était compliqué. Mais là, la deuxième, c'était beaucoup plus compliqué parce que moi, par exemple, ma gamine qui aime aussi s'habiller comme les autres, hein, en noir, vous saviez, leur tenue à la mode un peu, elle me dit, maman, on va plus s'habiller comme ça parce que tu imagines, on aura pu aussi nous confondre avec les autres personnes et nous tirer dessus. Donc là, on voit que la peur a pris la place aussi pour eux. Donc en fait, on est partagé parce que quand ils n'avaient pas peur, on n'était pas contente en tant que mère. J'ai dit, oh. Et là, maintenant, ils ont peur aussi. On n'est pas bien avec ça parce qu'on se dit, oh, alerte. Moi, je suis un peu plus sensibilisée parce que je suis aussi dans le milieu. Donc, je sais ce que ça veut dire la question santé mentale. Donc, je suis très, très vigilante. Mais il y a d'autres copines aussi. On essaie de parler entre nous. On est en mode auto-formation pour dire si ta fille ou ton fils dit ça, tu devrais peut-être aller voir et tout. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'on ne mesure pas encore ce qui se passe. Mais en tout cas, la peur aujourd'hui touche tout le monde. Et ça, c'est vraiment au deuxième fusillade qu'on entend parler en ce moment. La première, on n'avait pas ça.
celle qui a donc atteint 3 adolescents avec une arme de guerre. Rien n'est proposé, il n'y a pas un soutien psychologique proposé aux enfants dans le quartier. On entend parfois ça. Si. Il s'est passé un événement dramatique et on met une cellule de soutien psychologique en place.
Il y en a la maison de quartier de Vigan, il y a Espacil, il y a des endroits, mais c'est très difficile parce qu'en fait, je pense que c'est aussi important qu'on puisse prendre en compte aussi la sociologie aussi des territoires. On a affaire à des habitants qui sont quand même des personnes qui arrivent d'origine beaucoup étrangère. Donc en fait, on est aussi très éloigné avec ces sujets qui peuvent aussi des fois être traduits dans les origines comme des affaires des blancs, c'est pas fait pour nous, tout ça. Donc et il faut faire attention, je profite pour le dire aussi, ces enfants, nos enfants sont nés ici. Ils n'ont pas cette tradition que je respecte beaucoup et que je le fais aussi les rituels, mais on ne peut pas se permettre et on n'est pas en Afrique. Et donc en Afrique, on a tout le village pour être là, pour soutenir, et on est ici. Et donc, c'est comment, je pense, pour les autorités, de trouver peut-être une autre forme aussi pour rassurer les parents, pour mettre peut-être collectivement, parce que nous, quand il s'est passé des choses, on fait les fêtes, on mange ensemble, moi je rêve et je le lance ici, si on peut faire un gros banquet sur la dalle Kennedy, mais je pense qu'on a vécu des drames collectifs. Je pense qu'il faudra peut-être, nous, peut-être ce qu'on a besoin, c'est un accompagnement psychologique collectif. Voilà. Et or que là, aujourd'hui, c'est des coins qui sont encore un peu plus pour une autre population qui est plus, un peu plus éduquée sur ce sujet. Et ces enfants n'ont pas accès forcément. Après, j'ai vu qu'ils ont eu des matchs de foot. Il y a des choses qui se font, mais un peu en mode entre citoyens. Ce n'est pas vraiment organisé forcément par les politiques. Donc, je pense que, et c'est pour ça que je trouve que c'est important que les politiques viennent vers ces mamans-là parce qu'elles ont les réponses. On vient d'autres cultures, c'est des doubles cultures. Il y a une richesse énorme. On a des choses à apporter. Je pense que là, sur ce sujet d'accompagnement sur la santé mentale, on aura besoin de tout le monde pour accompagner nos enfants et il faut le faire maintenant parce que sinon, ben, on va payer aussi plus tard cher.
Oui, on va payer les conséquences, les séquelles et effectivement, il faut un travail main dans la main avec les autorités, qu'elles soient municipales ou nationales. Je voulais vous interroger en tant qu'élue du département auprès des notamment de la PMI, de la petite enfance, des parentalités. L'ambiance générale autour, nous c'est une réflexion en fait qu'on a eue ici avec les filles, Marine, Gwen, autour des enfants aujourd'hui en France. Et Gwen l'a souligné dans son billet. Vous pensez quoi ? Hier, le Premier ministre est interrogé sur Betaram. On a vraiment du retard en France sur la considération qu'on a des enfants.
Après, sur ce sujet-là, en tant que déléguée sur ma mission PMI Petite Enfance et les parentalités, je dis au pluriel, et c'était aussi une négociation politique parce que je pense qu'il faut aussi l'employer dans les vocabulaires parce que c'est important. Si on considère qu'on a des parents, je pense qu'on va considérer, y compris les familles monoparentales, mais aussi homoparentales, il faut dire aussi les mots parce qu'on est sur une forme de discrimination qui glisse tout doucement. Donc, moi, je suis très attentive là-dessus. Donc, sur ma mission, je suis beaucoup plus sur la prévention. Après, en général, en France, on sait très bien qu'on ne met pas assez de moyens sur les préventions, malheureusement. Donc, on ne fait qu'avec ce qu'on a. On a des services incroyables. Je pense aux agents qui travaillent sur le quartier et sur la dalle, qui sont là au quotidien, en face des familles, donc qui font avec ce qu'ils ont et ce n'est pas toujours facile. Donc, mon point de vue en tant que personne, en tant que citoyenne venue d'ailleurs, mais qui est depuis ici 20 ans, et je pense que c'est une bonne lunette aussi pour apporter, on ne fait pas assez pour nos enfants, on ne considère pas les enfants comme les enfants d'avenir, comme les enfants de la société. Et moi, je trouve ça bien triste. Donc, quand on voit des chiffres, quand on entend les violences que les enfants subissent, et après, on attend d'eux des vrais citoyens, moi, ça me questionne beaucoup. Donc, oui.
Ouais, on attendait beaucoup, mais on les a maltraités et voire pas considérés, soit maltraités quand
tout
ils étaient petits ou adolescents.
Ça me fait penser que du coup, dans une semaine, on sera à cette fameuse fête des mères.
C'est vrai.
Que du coup, Front de Mer reprend en parlant du braquage de la fête des mères et en rendant justement cette question politique et pas juste la question de la maternité, mais des parentalités, comme vous dites. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe entre on a l'impression que ça avance et que les questions, elles se politisent, et ce grand écart, en fait, ce qu'il y a avec le national, où, bah ouais, quand on voit ce qui se passe avec le Premier ministre, mais avec plein d'autres choses, on se dit que non, les enfants et les parentalités ne sont pas considérées. On a l'impression, ouais, qu'il y a un grand écart en fait entre même l'effort des militantes et tout le travail qu'elles accomplissent, qu'elles abattent. Et vous parliez de du manque de moyens. Les associations, les militantes, les féministes, elles mettent les moyens sur la table. Enfin, vous en êtes hyper concernées par ces questions à Villejean. Et voilà, on se dit que encore une fois, tout peut pas reposer sur ces militantes qui font déjà énormément.
Tout à fait, oui.
Non, il faut vraiment un travail main dans la main et de plusieurs forces vives qui et que les autorités. Alors, est-ce qu'on interpelle Madame Méadel, qui était présente le 22 avril, dont vous n'avez plus de nouvelles? Voilà. Alors, en tout cas, nous, en tant que les héroïnes, on le fait. On se demande, voilà, où sont passés les gens qui étaient venus pour la photo. Gwen, je vous en prie.
Oui, moi j'ai vu votre appel aussi à ne pas quitter le quartier. Et c'est vrai que on imagine difficilement sans moyens, enfin la manière dont les familles justement peuvent résister, parce que il s'agit quand même de résister à cette prise de d'otage de l'espace public par des pratiques illicites qui ont des incidences affreuses en fait sur les populations. Mais comment on fait effectivement quand on a peur, vous l'avez dit, et puis surtout quand on est face à un contexte qui n'est pas forcément favorable à un déménagement, vous l'avez précisé hein, dans cet appel.
Oui, j'appelle et j'aurais dit encore aux personnes qui veulent partir de ne pas partir, parce qu'en fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est ceux qui ont un peu plus de moyens, je dis bien un peu plus parce qu'on sait très bien qu'ils n'en ont pas, mais un peu plus, qui vont partir. Et dans ce quartier-là, sur ce territoire, il y a un vrai enjeu de mixité sociale. Donc si ces personnes partent, ben, c'est les plus pauvres, hein, les plus précaires qui vont rester avec leurs enfants. Donc en fait, il y a un risque et je sais que ce risque, ben, c'est très légitime, on sait que ben, ça arrive. Moi, je suis allée faire un tour à Grigny parce que j'ai une cousine qui habite là-bas et aujourd'hui, ben, il n'y a plus de service public, le quartier a abandonné. Dès qu'on arrive à la gare, c'est la loi de plus fort, c'est des violences au quotidien. Donc, on n'en est pas là, mais ça peut aller très très vite d'après ce qu'on peut entendre aussi. Donc, partir, c'est aussi c'est répondre à toutes ces personnes qui viennent et qui prennent en otage ce quartier-là. Et puis partir aussi, ben, ça voudrait dire qu'on baisse les bras et donc les politiques ne feront plus rien, parce que du coup, c'est un risque aussi, il y a une réalité. Et c'est aussi donner l'opportunité aussi, ben, on n'a pas le temps à l'extrême droite, parce qu'on le sent bien, on n'est pas dupe. L'année prochaine, c'est les élections. Donc, plus on crée de l'insécurité, il y a la frustration, il y a la haine, et ben voilà, on a les résultats derrière. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est ce qu'on veut pour la France? C'est-à-dire, il y a la France des uns et la France des autres? Je ne pense pas. On a vu ce qui s'est passé quand il y a eu les tirs, ben les malfaisants, ils sont partis vers Saint-Grégoire et il y a ce monsieur qui a témoigné en disant, ben, quelques minutes, j'étais avec ma petite fille, on aurait pu se faire écraser. Donc là, on mesure bien une réalité, ce qui se passe à Villejean, ça peut atteindre même beaucoup plus loin. Donc notre sécurité, c'est la sécurité des autres que je pense qu'il faut. Il est temps de voir les choses globalement et c'est pour ça aussi que j'ai lancé la pétition, parce que je pense que Madame la Ministre, qu'elle est venue, ben, il faut qu'elle revienne. Il faut vraiment qu'on parle. C'est vrai qu'il y avait, on était sur la colère, on avait toutes les émotions, mais non, les choses se sont peut-être un peu calmées. Bon, on peut parler calmement et d'aller sur le fond, parce qu'il y a la racine qui est là, qu'il faut couper, et on veut la couper ensemble, parce que c'est notre quartier, et puis même partir où? Parce que c'est aussi ça, enfin,
c'est
tant
votre
que militante, j'ai pas envie de partir.
C'est votre quartier, mais qui appartient à Rennes, ouais. Et en fait, on est Rennais, tous c'est concernés ça. Par ce qui se passe, mais au-delà de ça, tous les Français, Françaises doivent être concernés concernés par ce qui se passe à Villejean. Et effectivement, parce que les enfants, c'est la société de demain, c'est l'avenir. Je mettrai sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B, le lien vers votre pétition, Régine. Merci infiniment d'être venue nous rendre visite et répondre à nos questions. C'est un combat qu'on admire ici, qu'on soutient. Et puis, vous viendrez nous donner des nouvelles, savoir si Madame Méadel est revenue et a mis en place des choses, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut accompagner et mettre en place des choses.
Merci.
On se retrouve bientôt, nous, les héroïnes, alors peut-être courant du mois de mai, mais sur le 6 juin prochain, avec des membres d'ISKIS, Centre LGBTQIA+, de Rennes, pour parler de la marche des fiertés qui se tiendra le lendemain, le 7 juin, à Rennes, mais aussi des actes de malveillance à caractère haineux dont le centre est la cible et dont il souffre. On va se quitter en musique, on va écouter Terrain Vague et leur morceau Le Vent, Le Lac. Bon week-end, portez-vous bien, à bientôt.